Vous écoutez RTL.
Il est 15h04 et vous êtes sur RTL avec, bien sûr, comme chaque jour, Flavie Flamand. Bonjour Flavie.
Bonjour Marie Guerrier. Marie, je sais que vous allez être à notre écoute aujourd'hui et on vous retrouve à 16h pour un prochain point sur l'actualité. À tout à l'heure. Vous n'en avez pas marre de devoir toujours répéter la même chose, d'avoir le sentiment d'être transparent, de ne pas être écouté? Aujourd'hui, plus encore que les autres jours, on est vraiment fait pour s'entendre sur RTL. L'émission est en direct, elle commence tout de suite.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver chaque jour entre 15h et 16h sur l'antenne d'RTL. Voilà donc une habitude qui ne tue pas, mais plutôt une assuétude qui nous enrichit, nous fait grandir, nous élève et nous ouvre. Voilà pourquoi on ne peut pas résister à l'appel du partage tous les jours sur RTL. Voilà pourquoi nous sommes littéralement addicts, accros, fanas et j'en passe de ce rendez-vous. Merci en tout cas pour votre fidélité sur l'antenne d'RTL, mais également sur les réseaux sociaux où l'on aime à vous retrouver tous les jours. Voilà. Ici, c'est entre 15h et 16h, mais le reste aussi, c'est ouvert toute la journée sur les réseaux. Place au sujet du jour. Celui qui sait écouter deviendra celui qu'on écoute, selon le vizir de l'Égypte antique Ptahotep. J'en profite pour remercier Alexandra pour ses recherches. Tu entends ce que je te dis? On ne m'écoute jamais, mais t'es sourd ou quoi? Oh, fais pas semblant de m'écouter, hein, je le vois bien. Ça fait 10 fois que je te le répète. Vous vous reconnaissez? C'est normal. Pourquoi avons-nous le sentiment de ne pas être assez entendus? Nous-mêmes tenir compte de ce que disent les autres? Comment se faire mieux écouter? On en parle aujourd'hui avec notre invité. Alain Braconnier, bonjour.
Bonjour.
C'est toujours un plaisir de vous recevoir, Alain Braconnier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Super, on l'attendait. Le voici, votre dernier ouvrage chez Odile Jacob. On ne m'écoute pas. Vous êtes psychiatre, vous êtes psychologue. Alain Braconnier, c'est quand même dingue que dans notre société d'aujourd'hui, où tant de réseaux de communication sont à portée de notre main, on ne soit pas en mesure de nous écouter. C'est quoi écouter d'ailleurs?
Alors en effet, hein, c'est écouter, c'est être attentif, avoir de l'intérêt et en même temps, bien sûr, avoir un échange, c'est-à-dire se faire entendre aussi soi-même pour être compris. Ça n'a pas l'air, mais ça change tout. Et si dans notre monde contemporain, on savait suffisamment s'écouter dans un dialogue, dans un échange, dans une rencontre, plus qu'on ne le fait, le monde, de mon point de vue, irait mieux. Et que ça concerne beaucoup de situations, en définitive. Des situations qui sont en famille, les parents avec les enfants, les couples, dans la vie professionnelle. Et c'est vrai que c'est un paradoxe aujourd'hui. C'est vraiment un paradoxe où la communication est quand même beaucoup plus facilitée. Elle peut aujourd'hui être accessible à tous et à tout moment. Et paradoxalement, dans nos métiers, on entend de plus en plus de gens qui se plaignent, qui viennent nous voir, soit pour cette raison-là, soit ça arrive toujours dans les échanges. On ne m'écoute pas. On ne fait pas attention à ce que je dis. Et ça, c'est une demande qui est vraiment dans nos métiers de plus en plus fréquente. C'est à partir de cette expérience que j'ai écrit ce livre, bien sûr.
Alors, le monde serait sûrement différent. On a le sentiment aussi que quand on n'est pas écouté ou quand on ne peut pas se faire entendre, la seule façon de communiquer, c'est la violence aussi. Donc, le monde serait peut-être un petit peu plus en paix si on s'écoutait. Le monde serait peut-être un petit peu plus tolérant parce que si on écoutait la différence, évidemment, ça arrangerait les choses. C'est un véritable fléau aujourd'hui.
Je crois que c'est un vrai problème, et en effet un problème qui est paradoxal. Je crois qu'en effet, quand on sent qu'on n'est pas entendu, qu'on n'est pas compris, on peut vraiment se mettre en colère. C'est-à-dire que les émotions vous débordent ou l'angoisse vous déborde. Et qu'à ce moment-là, on redevient un petit bébé. Au fond, le petit bébé, qu'est-ce qu'il fait quand il veut se faire écouter?
Il crie,
il tape du pied, il crie ou il pleure. Eh bien, on retrouve cette période de sa vie sans s'en rendre compte. Et malheureusement, quand on grandit, on a la parole et qu'il vaut mieux passer par la parole que par les cris.
Exactement.
Parce que les cris appellent les cris.
Voilà, et ça ne sert à rien. On y reviendra évidemment avec vous. Beaucoup nous laissent des messages en disant « J'ai l'impression d'être transparent ».
Oui.
Parce que c'est ne pas écouter l'autre, c'est être dans la négation aussi de l'altérité.
Ah oui. C'est au fond beaucoup plus douloureux qu'on l'imagine. Alors, il y a évidemment des situations où on arrive à quand même dialoguer. Moi, je fais cette distinction entre la conversation et la communication. C'est-à-dire la communication, on informe, On donne au fond des petites, on fait des petites notes, on fait un SMS ou on communique de cette façon-là. Mais la conversation demande un petit peu de temps et puis on converse. Alors on peut ne pas être d'accord.
Ouais.
Quand on n'est pas d'accord, il y a deux façons. Soit on s'énerve, soit on reste suffisamment calme pour savoir oser dire ce qu'on a à dire. Et c'est ça tout le secret.
Oser, ça fait partie aussi des mots qu'on va employer jusqu'à 16h sur l'antenne d'RTL. Dans un instant, nous allons appeler Florence, Alain Braconnier. Elle a 46 ans, Florence, elle a l'impression d'être transparente à la maison. Ses enfants ne l'écoutent pas, visiblement son mari ne l'entend pas non plus. Alors, c'est vrai qu'on y reviendra évidemment avec vous, on va aider Florence, mais parfois on aimerait être écouté, mais on ne sait pas se faire écouter. On rejette la faute sur les autres, mais on pourrait s'interroger aussi sur la façon dont on s'exprime et dont on pose les choses. On va y revenir avec vous et on va y revenir avec Florence dans un instant, là tout de suite. Sur l'antenne d'RTL.
Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
J'ai l'impression que j'écoute beaucoup, nous écrit Loïc, et que je parle peu. Je pourrais même dire que je suis à la limite d'être transparent. Si vous le voulez bien, Alain Braconnier, vous qui êtes notre invité jusqu'à 16h en direct sur RTL, vous qui êtes l'auteur de cet ouvrage « On ne m'écoute pas », enfin compris chez Odile Jacob. Si vous le voulez bien, nous allons demander à Florence si elle partage le sentiment de Loïc, c'est-à-dire à un moment donné d'être transparente. Florence, bonjour, bienvenue sur RTL.
Oui, bonjour, bonjour Flavie, bonjour à tout le monde.
Alors, c'est difficile ? Il paraît que c'est un petit peu difficile en
oui,
ce moment.
Oui, ça peut être très difficile de répéter toujours la même chose. Après, sentiment de transparence, oui, ça peut arriver. Mais c'est surtout blessant pour moi de toujours répéter aux enfants de faire toujours les mêmes choses tous les jours. Et du coup, souvent, c'est ma réflexion, je leur dis qu'ils ne m'écoutent pas, qu'en fait, ils me mangent le cerveau, que j'en ai marre de répéter toujours la même chose et je fatigue, en fait. C'est surtout la fatigue morale que j'ai par rapport à ça.
Alors, vous en avez quatre, hein, en même temps, vous y êtes allé fort, hein, Florence. Vous vous êtes dit, allez hop, moi je vais faire la totale, je vais m'en faire quatre. Entre 7 et 21 ans, donc ils n'ont pas tous la même capacité d'écoute, ils n'ont pas tous, évidemment, la même vie. On n'a pas les mêmes relations avec tous nos enfants, évidemment, donc c'est sûr que vous avez multiplié un petit peu les scénarii. Comment est-ce que vous pourriez définir cette relation avec les enfants? Quand vous dites, moi je suis épuisée moralement, ça me blesse, donc déjà cette idée du respect, on va y revenir avec Alain Braconnier, mais quels sont les sujets sur lesquels on ne vous écoute pas?
Alors, pour les petits, on m'écoute pas pour ranger ses affaires, pour débarrasser la table, pour aller prendre la douche, par exemple. Ils finissent par m'écouter, mais il faut que je répète 7 fois, 8 fois, des fois plus la même chose. Ensuite, je me suis arrêtée de travailler pour m'occuper d'eux, donc j'ai l'impression de les écouter, ils choisissent leurs activités. Mais en retour, j'ai l'impression qu'on m'écoute pas. Enfin, ce que je demande, on le fait pas forcément. Et du coup, j'ai du mal à gérer émotionnellement. Pour moi, c'est compliqué, oui.
Ça se traduit comment? Parce que parfois, quand émotionnellement on est à bout, on finit par
gueuler
un bon coup. Voilà, c'est
les cris, bien sûr, ouais. C'est sûr que je finis toujours par crier. Ouais.
Est-ce qu'on vous écoute dans cette souffrance dont vous parlez? Vous dites ça me blesse. Est-ce qu'on vous écoute est-ce que vous exprimez déjà le fait d'être malheureuse de ça?
Oui, je le dis. Enfin, je le dis aux enfants. C'est vrai. Ça m'arrive de leur dire que j'en peux plus de répéter toujours la même chose, de demander toujours la même chose. Je le dis. Maintenant, ils sont petits peut-être encore et j'attends pas forcément qu'ils comprennent non plus, je sais pas.
Est-ce que vous êtes solidaire? Votre mari, par exemple, quelle position il a dans ce problème de communication? Est-ce qu'il vous écoute déjà, votre mari?
Il finit par m'écouter.
À l'usure.
Peut-être pas. Voilà, c'est ça, exactement, à l'usure.
Ça arrive.
Certaines décisions, il faut y aller à l'usure. Mais il finit par m'écouter. Il me fait totale confiance sur l'éducation des enfants. Donc, si je lui dis que les enfants m'ont fatigué pour cette raison-là, il peut les reprendre, parler avec eux. Par contre, lui, il n'a pas ce problème-là. Les enfants l'écoutent parce que Parce que peut-être qu'il le voit moins et que, je sais pas, quand il dit quelque chose, il est écouté, ouais.
En tout cas, il a une posture d'autorité qui n'est pas contestée à la maison, quoi.
Exactement.
Et la petite Florence, alors, si on regarde un peu dans le rétro, on revient. Comment vous étiez à la maison? Est-ce que vous étiez une petite fille entendue? Est-ce que vous étiez une petite fille écoutée?
J'ai pas cette impression-là, parce que maintenant, c'est maintenant, il n'y a pas longtemps que je prends conscience de ça, c'est qu'en fait, je pense que j'ai toujours été différente de mes frères et sœurs, et du coup, pas entendue en tant que telle, en fait, parce que, par exemple, déjà, dès le départ, on mettait les mêmes habits que ma sœur, quand j'étais toute petite, moi, j'aurais bien voulu avoir des habits différents.
C'est-à-dire que vous récupériez les habits de votre grande sœur, c'est ça, les vêtements de
votre grande sœur ? Je les récupérais, ou alors, on achetait deux fois la même chose, en fait, aussi, des fois, ça arrivait. Donc parce qu'on a que 18 mois d'écart avec ma sœur, donc voilà. Et j'ai eu une enfance sympa, je peux pas dire, j'en veux pas à mes parents, mais par contre c'est vrai que arrivé à l'adolescence, le choix des études, le choix des vêtements, j'étais pas entendue, quoi. Ce qui a fait que j'ai pas fait d'études, du coup, ou très peu, parce que on voulait me faire faire ou ce que je voulais pas ou ce que ma sœur faisait.
C'était quoi?
Ma sœur, elle avait fait un BTS et puis un BTS, voilà.
D'accord.
Et donc on me disait, il fait comme ta sœur, mais moi, franchement, je ne me voyais pas du tout dans ce métier-là. Elle finit par travailler à la banque, elle est très heureuse comme ça, tant mieux pour elle.
Mais c'était pas votre truc, quoi.
Non. D'ailleurs, j'ai réussi quand même à travailler, j'ai eu des emplois sympas, mais j'ai fini par arrêter parce que les enfants plus le travail, c'était pas possible, ça pouvait pas
c'est un choix que vous avez fait, vous, d'arrêter de travailler. C'est
votre
choix.
Pour moi, c'est une chance.
C'est le vôtre.
Et c'est un choix, oui. J'ai choisi d'arrêter, oui.
D'accord. Alors, vous savez, il en est un, en tout cas, qui vous écoute religieusement, si je puis dire, en tout cas avec énormément d'attention, c'est Alain Braconnier. Puis, alors, vous avez de la chance, parce qu'Alain Braconnier, quand il parle, c'est toujours intéressant et c'est très éclairant. Donc, dans un instant, Florence, si vous le voulez bien, on va se retrouver sur l'antenne d'RTL et Alain va pouvoir, nous expliquer ce que sont tous ces gribouillis sur la feuille qu'il a en face de lui. Voilà.
D'accord.
Ne bougez pas, Florence, à tout de suite.
Vous écoutez RTL.
RTL.
On est fait pour s'entendre.
Flavie Flamand.
Sébastien nous écrit « J'attends avec impatience votre émission ». Eh bien, ça tombe bien, Sébastien, on est en direct jusqu'à 16h et on pense à vous. Je pense avoir un trouble auditocognitif. Je me demande même si je parle français parfois. Et pourtant, je suis très sensible à entendre et à écouter les autres. Je passe mes journées à répéter sans cesse les choses, surtout avec les enfants. J'ai l'impression de devoir toujours leur apprendre les choses tellement elles ne semblent pas acquises. Bonne émission à vous. Vous voyez, vous n'êtes pas toute seule, Florence. Il en est d'autres qui rencontrent les mêmes problème à la maison. Vous êtes toujours là, Florence ?
Oui, je suis là.
Il y a une expression que vous avez sortie tout à l'heure, j'ai l'impression que mes enfants me mangent le cerveau. Je vais me tourner vers Alain Braconnier. On dit beaucoup de choses à travers parfois certaines expressions qu'on emploie en se disant, manger le cerveau, ça veut tout dire, hein ?
Oui, ça veut tout dire, parce que ça donne le sentiment qu'en effet, on n'existe plus par soi-même, mais qu'on est dévoré, au fond, par... je dirais presque un ogre extérieur qui vous empêche de vous sentir bien, de vous sentir satisfait de ce qui se passe. Et au fond, on n'existe plus. On sent vraiment que, y compris notre cerveau, dont on souhaite être quand même suffisamment maître, eh bien, il ne vous appartient plus parce que l'autre vous le prend.
Voilà. Alors, ces enfants, ils ne font pas exprès de prendre le cerveau de leur mère. Ce mari, il ne fait pas exprès, de ne pas entendre ou de ne pas écouter Florence. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire ? Qu'est-ce que vous avez retenu de l'histoire de Florence ?
Alors en effet, moi je trouve que Florence a dit beaucoup de choses qui sont au fond partagées par beaucoup de parents et qui sont à l'origine de ce livre, des conseils que je donne dans ce livre. Parce que les enfants sont toujours dans une position, surtout aujourd'hui, peut-être plus qu'avant, où ils souhaitent garder leur quant à soi, leur autonomie. Alors on peut dire qu'un enfant n'a jamais beaucoup aimé ranger sa chambre, qui n'a jamais beaucoup aimé mettre la table ou aider ses parents. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on leur demande quelque chose alors qu'on les a habitués souvent à se sentir libres, à être plus autonomes. Et que c'est cette contradiction-là, au fond, qu'on rencontre. Au fond, Florence, elle a commencé par ce constat qui est vraiment très juste, hein, qui est les enfants, ils n'écoutent pas ce qui les contraint. Et au fond, c'est très humain.
Nous, on a tendance à vouloir se défiler quand ça nous saoule.
Bah, bien sûr. Alors, c'est là où il faut savoir faire preuve à la fois d'autorité, mais une autorité qui fait qu'on la partage. C'est-à-dire, on voit bien que cette autorité, elle ne peut pas être donnée aux enfants. Et ça, c'est un peu le problème de l'éducation en France. On apprend aux enfants à écouter et puis souvent à se taire. Mais on ne leur apprend pas à être écoutés. Et que si on n'apprend pas à l'enfant à savoir être écouté, y compris pour quand ils s'expriment avec leurs parents, mais avec leurs amis aussi, eh bien, on ne leur donne pas les moyens d'un échange qui est au fond beaucoup plus à égalité qu'ils ne le pensent. C'est-à-dire qu'un enfant, il a besoin incontestablement, avant qu'on le contraigne, d'être intéressé par ce qu'on lui demande. Mais pour ça, il faut l'écouter d'abord.
Voilà.
Et ça, c'est non seulement dans les relations parents-enfants, mais dans les relations, on le verra peut-être, enseignant-élève. Il faut savoir le laisser parler. Il ne veut pas ranger sa chambre. Tiens, qu'est-ce que tu penses de ta chambre? Comment elle est ta chambre? Ça te plaît, là? Tu retrouves tes affaires? On l'aide d'abord à s'exprimer. Et puis à partir de là, on lui dit, bah, tu vois, moi j'ai bien compris les raisons pour lesquelles ta chambre n'est pas rangée. Alors moi, écoute-moi, je vais te dire comment ça pourrait être autrement. C'est une méthode qui est valable de l'enfance à l'âge adulte.
Mais là, on
On
s'adresse à Florence adulte, mais Florence, elle nous expliquait que Florence enfant, c'était déjà une petite fille qui n'était pas écoutée.
Alors, le premier message, c'est que pour être écouté, il faut d'abord écouter. Et le deuxième message, c'est tout à fait ça, et là, Florence le dit très très bien, elle a eu du mal à oser. Elle a eu du mal à avoir confiance en elle. Parce qu'on l'a quand même, peut-être, sans doute, un petit peu habitué à être au second plan par rapport à sa sœur, ou à ne pas pouvoir exprimer suffisamment ses désirs de telle façon qu'ils se réalisent. Et ça, évidemment, ça donne à Florence une difficulté, au fond, de s'affirmer de façon suffisamment juste, de convaincre au fond l'autre. Alors elle appelle son mari, qui ne l'écoute pas non plus toujours beaucoup, mais qui en fin de compte l'écoute quand même. Et on voit bien qu'elle a une difficulté à ce niveau-là, alors qu'elle a toutes les capacités. Elle a toutes les capacités, elle s'exprime bien, elle comprend, elle aime ses enfants, elle veut que ça se passe le mieux possible, elle a du mal à se faire entendre.
On se retrouve tout de suite sur l'antenne d'RTL.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Je suis tellement triste d'avoir cette impression de sans importance vis-à-vis de mes trois enfants et de mon mari, nous écrit Nathalie. Je parle ou j'essaie, mais ils ne m'écoutent pas ou tout simplement, ils me coupent la parole. J'en ai discuté avec mon mari en lui expliquant que ça me rendait triste. Il m'a répondu, je vais faire des efforts. J'ai cette impression que ma place est au ménage, boulot, éducation des enfants, devoirs. Je suis constamment fatiguée et lasse de cette situation. Nathalie, on va tout changer. On va tout changer aussi, Florence, parce que Florence, vous nous avez expliqué il y a un instant qu'il était difficile à la maison, peut-être, de vous faire entendre, de vous faire écouter, et il vous arrive de crier, parce que vous n'en pouvez plus.
Oui.
Bon.
Oui, c'est vrai.
Est-ce que vous vous rendez compte, dans ces moments-là, que une bonne gueulante, c'est pas forcément la meilleure façon de se faire entendre? Est-ce que vous avez senti?
Ah bah non, après coup, pour moi, c'est inutile, je le sais. Oui.
C'est parce que vous n'en pouvez plus.
Oui, mais après, je n'ai pas la solution.
Ouais,
c'est vrai que j'ai un manque de solution et que du coup, je crie, mais ça ne règle pas. Ça stresse tout le monde et ça, pour moi, ça ne sert à rien. Je ne veux pas, en plus, passer mes après-midi, dès que je les récupère, à crier. C'est au contraire.
Je suis d'accord. Hyper coûteux. Ce que vous nous avez expliqué il y a un instant aussi, Alain Braconnier, c'est que Florence, donc, visiblement, de par son enfance, sa situation dans la fratrie, le fait de porter les mêmes vêtements que sa sœur, le fait de ne pas avoir choisi la branche professionnelle qui lui aurait plu et tout, Florence, elle a une sorte de handicap, quoi. C'est-à-dire qu'elle a une difficulté supplémentaire à se faire entendre.
Oui, elle a une difficulté à se faire entendre et je pense que par rapport à sa position de mère, on est bien tout un chacun habiter par ce qui nous est arrivé en tant qu'enfant.
Forcément.
Et que quand elle est en position de mère, elle aimerait bien que ça se passe différemment pour ses enfants, mais elle n'arrive pas à prendre cette position de mère.
Donc
parce
c'est
que
une main de crier.
C'est une main de crier, mais en même temps, c'est inefficace.
Ouais.
Alors c'est vrai que c'est par épuisement. Hein, et Florence dit très bien, il faut trouver une autre solution. Mmh. Et l'autre solution, c'est bien évidemment d'écouter ce que les enfants attendent de vous. Et si avec un enfant on n'y arrive pas, c'est pas inutile de temps en temps de faire une pause, de se retrouver un peu tous ensemble et de dire écoutez, on va parler un petit peu de ce qui se passe et puis on va échanger autour de ça. Parce que une des solutions, et nous on a cette solution-là dans nos métiers, quand on reçoit un couple, quand on reçoit des parents et des enfants, eh bien souvent on est un tiers, on est celui qui est un peu extérieur, qui fait que les choses peuvent se dire différemment.
Médiateur un peu.
Un aussi. Médiateur, exactement, un médiateur, un transmetteur de messages de l'un vers l'autre, et qu'à ce moment-là, le tiers a une position qui favorise l'échange. Et dans une famille, ça peut être un frère, ça peut être une sœur, et ça peut être évidemment son mari, qui fait que la dimension du groupe est parfois utile. Et puis, il y a une autre solution aussi que Florence pourrait essayer d'avoir, peut-être avec les plus grands, c'est que on n'arrive pas à bien se parler. On se fâche, je crie, t'es pas content. Eh bien, on va peut-être passer par l'écriture. C'est-à-dire, tu vas m'écrire qu'est-ce qui va pas et moi je vais t'écrire ce qui va pas. Et que ça, c'est quelque chose qui peut être aussi un moyen qui va dégager peu à peu Florence de son sentiment d'incapacité d'être écoutée.
Voilà, l'écoute, comme le précise Christelle, ce n'est pas forcément oral. L'écoute, ça peut être écrit. En fait, l'écoute, c'est une intention, c'est une considération de l'autre.
Alors, c'est non seulement une intention et une considération, mais c'est la base du fait que ça se passe plus ou moins bien. Si on n'a pas vraiment l'intention d'être écouté, c'est pour ça que c'est très important. Moi, je vois, on reçoit des personnes, et j'en donne des exemples dans ce livre, on reçoit des personnes qui disent oh, « je ne suis pas écouté », mais je leur dis « mais est-ce que vous avez voulu vraiment être écouté là sur ce que vous souhaitiez dire ? Ça vous paraissait important ?»« Ah oui, mais c'est difficile à dire, puis j'ose pas le dire, et puis peut-être que du coup, cet enfant ne va plus m'aimer comme il m'aimait. »
Je ne vais pas être soutenu.
Donc, il faut aussi avoir la conviction qu'on veut dire quelque chose et on veut que l'autre vous entende. Et cette conviction n'est pas si facile que ça à avoir, contrairement à ce qu'on pourrait croire.
Alors, ce qu'on va faire, en deux temps, Florence, on va vous envoyer l'ouvrage d'Alain Braconnier. Comme ça, vous aurez une super Bible.
Ah,
et puis, ça pourra vous aider. Vous allez rester en ligne. On va prendre votre adresse et je vais vous l'envoyer juste après l'émission. Et la deuxième chose, quand vous l'aurez lu, cet ouvrage, eh bien, vous allez réunir tout le monde dans la cuisine un soir. Et puis, vous allez expliquer aussi, d'une façon posée, calme, avec la voix assurée qui est la vôtre. Voilà, on a peut-être un petit problème de communication dans cette famille, on ne s'écoute pas. Moi, peut-être que je ne vous écoute pas, les enfants, mon mari, et vous, peut-être que vous ne m'écoutez pas non plus. Et on va mettre ça sur la table et puis on va repartir sur des bonnes bases. Et puis vous nous tenez au courant, d'accord ?
Très bien.
Bon.
Super, merci beaucoup.
Et oui, puis retrouver la patate et le rire, là, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on a le sentiment d'être un peu dévoré, mais voilà, mais
non,
je suis sûre que le livre.
Je suis de bonne humeur facilement.
Moi, j'entends aussi. Mais le livre d'Alain Braconnier va vous aider. Vous restez en ligne, on prend votre adresse et je vous l'envoie
merci
juste
beaucoup.
Après. Je vous embrasse.
Merci beaucoup pour tout ce qui a été dit. Au revoir.
Prenez soin de vous. Au revoir, Florence.
Vous écoutez RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Priscilla nous écrit, c'est très important d'écouter les autres, mais ça fait du bien de se sentir écouté aussi. Beaucoup de nos auditeurs, hein, d'ailleurs, nous expliquent quand même, Alain Braconnier, le sacrifice que demande parfois l'écoute de l'autre, quand on n'est pas écouté, quand on n'a pas de retour. Certains nous disent, moi j'écoute, mais en fait, personne m'entend, moi, quoi. Et moi, dans l'histoire. En fait, écouter l'autre, et comme nous l'écrit très justement Valérie, c'est d'abord se mettre à la place de l'autre sans le juger. Pas facile, ça. Hein ?
Oui, c'est vrai que... mais c'est vrai dans toutes les relations humaines, mais c'est vrai dans cette relation-là, où on se parle. C'est vrai que on a quand même toujours, au fond, on est beaucoup plus prêt à écouter ou à être écouté avec celui qui a le même avis que vous.
Oui.
Et que ça, c'est pas là qu'est la difficulté.
Bah non.
La difficulté, c'est quand on n'est pas d'accord, quand on a un point de vue différent. Alors, ça peut évidemment déboucher sur des conflits. Mais il faut gérer les conflits dans la vie, c'est tout à fait normal. Et que se mettre à la place de l'autre, savoir que l'autre ne pense pas comme vous, ne va pas de soi. Hein. Sinon, il n'y aurait pas d'échange. C'est un enrichissement de s'écouter, parce qu'on découvre la vie de l'autre, on peut avoir une curiosité sur ce qu'il va vous dire sur tel ou tel sujet, et que tout ça fait du bien, tout ça est agréable.
Bien sûr.
Et nous, on le voit bien dans nos métiers, que les personnes qui ont du mal à être écoutées et qu'on écoute, eh ben, ça leur fait du bien, ça les détend, et on se met à leur place, on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce qu'ils veulent nous dire, dans les difficultés qu'ils rencontrent, et ça, ça doit être vrai dans la vie quotidienne.
Mais ça nécessite de se décentrer un petit peu, de s'oublier un peu. Il y en a qui ne s'oublient pas, hein. Il y en a qui ne parlent que d'eux.
Oui,
bah alors c'est ça, vrai, c'est vrai. On en rencontre hein,
oui,
aussi
bah,
dans cette société hyper individualiste.
On sait très bien que quelqu'un qui parle trop,
ouais.
Eh bien, il n'écoute pas.
Ouais.
On peut repérer, c'est très important de savoir au fond à qui on s'adresse. C'est pour ça que moi je dis, dans ce problème d'écoute, et je le décris dans ce livre, il faut d'abord savoir un petit peu à qui on s'adresse. Et savoir à qui on s'adresse, c'est non seulement savoir qu'il n'a pas forcément le même avis que vous, mais qu'il est disposé ou pas à vous écouter, qu'il a un point de vue qui peut être justement tout à fait autoritaire vis-à-vis de vous, et que si on ne sait pas à qui on s'adresse, on ne va pas savoir lui parler, on ne va pas savoir être écouté par lui. Il faut au fond presque le connaître de telle façon qu'on est dans une relation qui au fond est paradoxalement plus puissante que lui. C'est-à-dire qu'on va être capable de découvrir chez l'autre ce qui va le rendre plus sensible à vous. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Il faut savoir que dans cette relation-là, quand ça ne se passe pas bien, il y a toujours une relation de pouvoir. Et puis parfois, ça monte vraiment très haut. Et celui qui parle tout le temps, celui qui n'entend pas l'autre, celui qui donne des réponses à vos questions, qui sont des réponses complètement à côté, c'est sûr
clair.
Qu'il ne vous écoute pas.
C'est clair.
Et qu'à ce moment-là, il faut savoir un petit peu qui ne vous écoute pas et savoir comment susciter son intérêt avec même la possibilité
si ça en vaut
de... Si ça en vaut la peine. Et en sachant un peu le séduire, en sachant trouver chez lui ce qui peut l'intéresser.
On a Séverine qui nous écrit « Parfois, même lors de repas de famille, tout le monde parle en même temps. Chacun veut raconter son histoire et personne n'écoute personne. » Et puis parfois, alors c'est dans le brouhaha familial, et puis parfois c'est aussi dans une relation à deux, la relation amoureuse. Max nous écrit « Je suis dans ce cas, mais en demandant à ma femme de toujours répéter. Je m'interroge beaucoup. Suis-je le monstre indifférent ?» Suis-je le monstre indifférent, pardon, ou le sourd en devenir ? Je culpabilise quoi qu'il en soit.
Alors oui, en effet, ça arrive tout à fait. Les situations de couple sont vraiment des situations où le problème d'écoute est tout à fait au premier plan.
Et là, Max nous dit « je n'écoute pas ma femme ».
Oui, oui.
C'est hyper intéressant parce qu'on n'est pas simplement quelqu'un dans les postures de « je ne suis pas entendu ». C'est dire « mais en fait, je n'accorde pas ».
Il n'accorde pas, au fond, de l'intérêt à ce que peut lui dire sa femme ou il en a peur.
Mais il n'est pas monstrueux.
Non,
et il n'est pas sourd.
Il n'est pas sourd, il n'est pas monstrueux.
Mais il va trouver une solution, Max, quand
oui,
même.
Oui, il va trouver une solution et je vais lui en donner une.
Ouais, super.
C'est celle de savoir dire à sa femme, est-ce que ce que tu as dit, c'est bien ce que tu voulais dire ? C'est-à-dire de renvoyer à l'autre une question qui va faire que, justement, elle va pouvoir lui expliquer ce qu'elle veut dire.
Plus
et lui
détail.
Va, du coup, être intéressé parce que ça vient de lui, la question. Ça ne vient pas de l'autre. C'est-à-dire que quand on est dans une relation de dialogue, eh bien quand on fait préciser à l'autre ce qu'il veut dire, du coup, on lui donne la possibilité d'exprimer les choses de telle façon qu'à la fois, il s'explique mieux et qu'à la fois, c'est une réponse à ce qu'on a voulu de lui. Et que ça, c'est très important, et on le sait bien dans les techniques de communication ou les techniques qui existent aujourd'hui pour être écouté ou se faire écouter, c'est une méthode qui est importante à avoir à l'esprit de chacun.
On a un message de Marie-Laure. « Je suis seule avec mon mari, mais il ne m'écoute pas. Enfin, il ne m'entend pas. Mais non, tu m'en as pas parlé, me dit-il. Voilà la phrase que j'entends sans cesse de sa part. Dans un an, c'est la retraite. Ça me fait peur car je me renferme de plus en plus. » On peut, dans un couple, parce qu'on ne sait pas s'écouter, on peut être deux grandes solitudes en réalité.
Oui.
Et dans un instant, on va répondre justement à Marie-Laure. On va parler d'amour et de communication. À tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Bon, Alain Braconnier, comment peut-on faire pour que Marie-Laure ne se dise pas « Dans un an, mon mari, c'est la retraite, on va se retrouver tous les deux et on n'aura finalement pas grand-chose à se dire puisqu'on ne sait pas s'écouter. »
Bah, en effet, c'est un moment difficile de la vie, hein, la retraite, faut pas le négliger. Et c'est vrai que les choses changent et que essayons de voir les choses de façon à ce que ce changement soit positif. C'est-à-dire qu'en effet, on va se retrouver à deux et là, on va pouvoir peut-être beaucoup plus partager qu'on l'imaginait jusque-là. Mmh. C'est ça le paradoxe. C'est-à-dire qu'on va se retrouver de telle façon qu'on va partager la même crainte, c'est de se retrouver en face à face et de ne rien avoir à se dire. Mmh. Eh bien, au contraire, c'est le moment où il faut trouver des points communs.
Est-ce que ça se prépare, justement, par exemple, quand on sait que c'est dans un an et que finalement, Marie-Laure a le sentiment que son mari ne l'écoute pas. Est-ce que c'est maintenant, peut-être, que se jouent les années qui viennent?
Ah oui, ça se prépare et ça se prépare une fois de plus en cherchant les intérêts qu'on partage.
Ouais.
C'est tout à fait normal qu'on n'ait pas les mêmes goûts, c'est tout à fait normal qu'on n'ait pas forcément les mêmes projets. Même.
Et qu'au bout de X années, décennies de vie ensemble, on ait le sentiment de se connaître.
On ait le sentiment de se connaître et on ne connaît jamais suffisamment l'autre. Il y a une difficulté dans la vie, c'est de se rendre compte que l'autre ne pense pas comme vous.
Mmh.
Mais soit on se dit, à ce moment-là, c'est vraiment pas la peine de vivre avec lui, soit on se dit, il pense pas comme moi, c'est peut-être là où on va pouvoir trouver, et sûrement que moi je pense pas comme lui, c'est peut-être là où on va pouvoir trouver une complémentarité qui va faire qu'on va trouver des choses qui vont être beaucoup plus intéressantes qu'on imaginait.
En tout cas, ce que j'entends aussi Alain Braconnier, et ce qu'on lit dans votre ouvrage, c'est que parfois il faut marquer les moments, c'est-à-dire qu'il faut savoir faire table rase d'un problème de communication et se dire, on démarre, allez, on reprend l'histoire, là, maintenant, mais différemment. Voilà, on pose des actes.
Oui, la vie est...
On n'attend pas de l'autre qu'il réagisse.
Bien sûr.
On marque le début d'une nouvelle histoire.
Bien sûr. De temps en temps, il faut même savoir passer par des crises.
Oui.
La crise, par définition, c'est une tension, mais en même temps, on en sort.
Mmh.
Eh bien, la crise est parfois utile, de telle façon qu'on puisse partir autrement.
Mais dans le couple, c'est souvent ça, d'ailleurs. Hein. Et puis, parfois, un couple qui se dispute, c'est un couple qui ne s'entend pas. Enfin, je veux dire, parfois, on a des disputes, des engueulades qui... On a le sentiment de ne pas du tout parler le même langage. Et vous me disiez hors antenne, et dès que ça redescend, on se rend compte qu'en fait, c'était ridicule, on aurait pu faire autrement.
Oui, parce qu'on est pris, c'est le poids des émotions. Dans l'échange, c'est le poids des émotions. Les émotions vous débordent.
Mmh.
Surtout quand on a quelque chose à dire et qu'on n'arrive pas à justement être entendu. On est angoissé une fois de plus, on est en colère, et là on est débordé. Du coup, on part dans tous les sens, on répète les mêmes choses, on ne voit plus ce qui est important. Et savoir être écouté, c'est pas partir dans tous les sens, c'est savoir vraiment la chose qu'on veut dire la plus importante et ne pas sans arrêt se répéter.
Ouais.
Et une fois qu'on suit ces petits conseils-là, comme je crois on peut tout un chacun les suivre, à ce moment-là, on va faire passer le message.
Il faut oser. Hein. Geneviève, elle nous explique « Je suis timide et je suis invisible pour mes amis ». Qu'est-ce que c'est difficile comme constat? Parce que vous avez peut-être, vous, le sentiment, Geneviève, d'être invisible. Mais si vous avez des amis, c'est que vous ne l'êtes pas, déjà. Sauf quand ils ont besoin de moi, nous écrit-elle. C'est super difficile quand même.
Oui, alors
il faut oser aussi. Enfin, ça se traite la timidité.
Oui. Ah oui, ça se traite la timidité, mais c'est vrai que la timidité, c'est une difficulté pour pouvoir exprimer ce qu'on a envie de dire, pour pouvoir oser justement, parce qu'on est beaucoup dans l'imaginaire. On voit à table, par exemple, les gens qui parlent pas, mais ils pensent à des tas de choses. Et c'est
leur, ils sont riches aussi.
Ils sont très riches en termes d'imagination, mais ils n'osent pas l'exprimer.
Mmh.
Alors, il y a là sûrement une difficulté qui a été peut-être ancienne dans leur existence, depuis l'enfance. Mais il faut savoir que ce qu'on a à dire est quelque chose qui va passer si on est authentique. L'authenticité, c'est ce qui passe vraiment.
Mmh.
Et vous qui êtes dans le monde de l'écoute et de l'échange et de la communication, vous savez qu'il faut être authentique. Les gens qui sont pas authentiques, ça passe pas.
Mmh.
Puis un petit plus qu'il faut aussi savoir, et sur lequel j'insiste aussi dans ce livre, c'est qu'il faut savoir trouver les mots justes. Hein. Au fond, l'auditrice qu'on a eue tout à l'heure, Florence, elle a trouvé le mot juste à propos, ça me dévore le cerveau. C'est une image.
Mm.
Puis il y a un dernier point, c'est qu'il faut aussi savoir manier l'humour. C'est-à-dire que si on ne sait pas manier l'humour dans l'échange, quand on a du mal un petit peu à échanger, eh bien, on va avoir du mal.
Oui, c'est vraiment une belle parade, l'humour, hein, qui permet peut-être à un moment donné de faire le premier pas.
Ça fait passer les choses qui sont parfois pas très agréables pour l'autre, mais qui sont dites sous une forme qui est drôle. Ou suffisamment drôle pour que ça passe.
Si vous le voulez bien, on va accueillir Anne-Marie. Anne-Marie, on l'a contactée, enfin elle a appelé le 3210. Bref, elle nous explique que l'écoute, c'est son métier. On va parler maintenant de la communication dans le boulot. Parce que c'est vrai que dans le couple, avec les maris, avec les enfants, c'est pas toujours simple. Mais parfois aussi, on n'arrive pas forcément à se faire entendre et à être écouté au travail. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour.
Merci Anne-Marie de nous éclairer de votre expérience. Vous vivez à Montpellier et alors vous vouliez donner quelques conseils justement en termes de communication dans l'univers professionnel.
La communication, effectivement, comme disait Monsieur Braconnier, ça a lieu dans le couple, à partir du moment où il y a une relation, que ce soit à deux ou en famille, mais également dans l'entreprise. Donc moi, je m'occupe de la relation avec les jeunes adultes, et également de la relation dans l'entreprise, c'est-à-dire comment se comprendre et mieux se parler dans une entreprise, dans une équipe de travail, entre managers, entre collègues ou entre collaborateurs.
Parce que c'est pas facile de se distinguer dans une entreprise, hein?
Ah non, parce qu'il y a plusieurs enjeux déjà, et puis il y a un partage de territoire, donc où l'un doit laisser s'exprimer l'autre, savoir taire son propre discours, parce que souvent, quand l'un parle, l'autre imagine une réponse et n'est pas vraiment dans la présence et dans l'écoute active. Et il y a également ce dont on n'a pas parlé, c'est le non-verbal, c'est-à-dire donner des signes verbaux d'intérêt, comme des accusés de réception.
Je comprends. C'est vrai que la communication non-verbale, ça revient aussi, hein, c'est-à-dire qu'à la façon dont on se pose, dont on tourne la tête, dont on pose un regard.
Le regard, oui.
Et alors, comment se faire entendre, comment se faire écouter lorsqu'on a le sentiment d'une palette?
Déjà, c'est repérer l'émotionnel. Donc, à partir du moment où il y a de l'émotionnel dans la relation, c'est certain qu'on va avoir du mal à s'écouter. Donc, il faut laisser passer l'orage, on va dire, soit émotionnel, et puis ensuite revenir faire un débriefing après pour comprendre ce qui s'est passé et pour pouvoir distinguer les faits, donc des interprétations, des opinions, des ressentis, des sentiments. En fait. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra inciter l'autre à préciser le cours de sa pensée et également préciser la sienne, et pour pouvoir se comprendre mutuellement, en fait.
En fait, Alain Braconnier, ce que nous dit Anne-Marie, c'est prendre un peu de recul par rapport à certaines situations qui sont un peu brûlantes, quoi.
Oui. C'est vrai que dans l'entreprise, c'est une question très centrale, hein, la possibilité de se parler. Et qu'aujourd'hui, on est quand même...
Il y a des drames dans des entreprises où les employés ont le sentiment de ne pas être écoutés. Hein.
Et vraiment, ça pourrait être un changement important que de savoir mieux se parler, c'est sûr. Alors, c'est vrai aussi qu'on a des rôles dans une entreprise. Et que ces rôles vont faire qu'ils peuvent vous inhiber par rapport... moi, je donne beaucoup d'exemples dans ce livre, et un des exemples, c'est une femme qui doit aller voir son patron pour demander une augmentation, et que cette augmentation, bah, elle a du mal à le demander, parce qu'elle a un peu peur de le demander. Et elle l'a demandé à l'adjoint, et du coup, c'est passé.
Voilà, donc il y a une façon parfois aussi de faire les choses. Anne-Marie, je vous remercie, hein. C'était rapide, mais c'était éclairant.
Avec plaisir.
Et puis on vous embrasse. Merci pour votre fidélité.
Au revoir.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand.
On est fait pour s'entendre.
RTL.
Bon, alors vous pleurez ou pas? Parce qu'il faut qu'on se dise au revoir à Alain Braconnier.
Mais j'ai des pleurs intérieures.
Voilà. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je conseille à nos éditeurs, On ne m'écoute pas, c'est votre ouvrage chez Odile Jacob, pour être enfin compris. Je vous remercie.
Merci
vraiment,
beaucoup.
C'était un plaisir et je vous embrasse. Demain, tiens, vous avez adoré le thème quand je vous en ai parlé tout à l'heure. On va parler d'un nouveau phénomène dans lequel beaucoup d'entre nous vont se retrouver. C'est le phénomène des parents drones. Ceux qui sont toujours derrière leur rejeton, quel que soit leur âge, pour prévenir les dangers. Ceux qui prennent les coups à la place des enfants, qui font à leur place, qui pense à leur place, que celui qui n'a pas rédigé une rédac à la place de son enfant lève le doigt, que celle qui n'a pas un peu baratiné un prof en colère pour éviter la colle lève le doigt, que celui qui n'empêche pas son enfant d'aller à l'école tout seul de peur qu'il lui arrive quelque chose lève le doigt. Les parents drones, ce sera demain à 15h en direct avec vous sur RTL. Tout de suite, voici Laurent Ruquier, les grosses têtes. Moi, je vous embrasse, prenez soin de vous, communiquez, écoutez-vous. À demain.
Vous écoutez RTL.